Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et alors Anthony, on va parler d'actualité, et l'actualité, tout le monde en parle aujourd'hui, ce sont les éoliennes marines.
Les éoliennes en mer, oui, il y a Emmanuel Macron qui fait une visite à Saint-Nazaire, hein, premier parc d'éoliennes offshore installé qui doit normalement générer suffisamment d'électricité pour, on va dire, compenser 20% de la consommation de la Loire-Atlantique. Donc voilà, c'est un premier pas et c'est un exemple, mais parmi plein d'autres, de ce qu'on appelle les énergies marines renouvelables qui présentent un potentiel assez dingue. Parce que les éoliennes marines, le problème, et c'est tout le débat, c'est est-ce que ça gâche la vue, le paysage, le littoral? Moi, je viens de cette région-là en plus, donc je vois bien de
quoi. La biodiversité.
Et voilà, il y a aussi ce sujet-là. Alors, la solution pour la visibilité, c'est les hydroliennes. Vous connaissez les hydroliennes? C'est comme une éolienne en mer, mais c'est sous l'eau, voilà, elle est cachée. Voilà.
Après, les éoliennes en mer, elles ne se voient pas non plus énormément.
Elles se voient un petit peu.
Ça dépend des endroits.
Non, non, mais alors le truc, les hydroliennes, on ne les voit plus du tout parce qu'elles sont carrément sous l'eau. Alors vous allez me dire, sous l'eau, il n'y a pas de vent. Non, mais on va utiliser en fait la puissance des courants marins qui sont très puissants à certains endroits.
Ça
ne va
pas être très bon pour les poissons, ça.
Ah, ben alors attends, ça dépend où on les place.
Ah oui, la même chose. Ça dépend.
Oui, mais bon, il faut bien trouver des solutions de toute façon. Donc voilà, donc ces hydroliennes, elles vont capter les courants sous-marins, les transformer en électricité. Elles ont deux avantages. Un, on ne les voit pas. Et deux, l'énergie des courants marins, elle est beaucoup plus facilement contrôlable. On peut la prédire beaucoup plus facilement que le vent.
Elle ne s'arrête pas.
Elle ne s'arrête pas, exactement. Donc c'est ça qui est très intéressant. Alors il y a plein de projets. On peut citer une start-up française qui s'appelle Sabella, dans le Finistère. Il y a des courants assez costauds, et notamment ils veulent alimenter l'île d'Ouessant comme ça. Ils ont fait un certain nombre de tests pour pouvoir alimenter en énergie certaines îles grâce à ces hydroliennes. Donc ça, c'est un premier exemple.
Alors on a les éoliennes en mer, les éoliennes sous l'eau, mais il y a d'autres éoliennes.
Alors il y a plein d'autres choses. Par exemple, une alternative très intéressante, c'est l'énergie houlomotrice. Houlomotrice, c'est on va en fait exploiter la puissance des vagues. C'est-à-dire qu'on va installer une structure, alors ce sont des structures flottantes qui font à peu près 20 mètres de long, un peu comme un grand serpent qu'on va poser à la surface de l'eau. Et ce grand serpent, eh bien, il va capter la puissance de la houle et il va la transformer en électricité. Et cette électricité, on va pouvoir s'en servir, alors par exemple, pour alimenter des plateformes pétrolières offshore.
C'est au large, ça.
Alors c'est au large, ça peut. Non, mais par exemple, pour alimenter des îles qui sont un petit peu isolées, qui utilisent aujourd'hui des générateurs diesel qui consomment beaucoup, eh bien, on va pouvoir se servir de l'énergie des vagues et la rapatrier jusqu'à ces îles. Donc ça, c'est très intéressant. Intéressant. Deuxième exemple, on va apprendre un mot ensemble, l'énergie osmotique. Osmotique, c'est quoi? C'est l'énergie qui est générée quand l'eau salée rencontre l'eau douce. À l'estuaire des fleuves, il y a une différence de salinité qui fait que, eh bien, on peut générer à partir de ça de l'électricité. C'est assez dingue. On crée des membranes spéciales, en fait, et on va pouvoir, à l'estuaire de chaque fleuve, potentiellement, eh bien, générer énormément d'électricité, en fait.
Alors, tout ça, c'est bien joli sur le papier, mais la question cruciale, c'est quelle production on peut espérer? Est-ce que ça produit beaucoup?
Alors, si on prend le potentiel total théorique, et le mot important, c'est théorique, dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, on est, pour toutes les énergies marines renouvelables, entre 20 et 90 000 TWh par an. Pour avoir un élément de comparaison, la consommation électrique mondiale, c'est 20 000 TWh par an. Donc on peut potentiellement, on pourrait potentiellement compenser la totalité de la consommation électrique mondiale. Sauf que, encore une fois, c'est théorique, tout ça sur le papier, c'est très bien. Par exemple, les hydroliennes, c'est compliqué à installer. Effectivement, on ne peut pas les mettre n'importe où, il y a des zones de pêche. Ensuite, la durabilité des matériaux quand ils sont sous l'eau, soumis à des courants, avec du sel, des coquillages et des algues, forcément, ça ne va pas non plus durer 50 ans. Donc il y a toutes ces questions-là à prendre en compte. Mais la France a une énorme carte à jouer. Vous savez qu'on a la deuxième surface maritime mondiale. Grâce au Dom-Tom, grâce à la Polynésie française, grâce à la Nouvelle-Calédonie. Donc, énorme carte à jouer. Et d'autant qu'on a aussi un très grand savoir-faire et une expertise en matière de recherche. Il y a beaucoup d'universités, notamment je pense à l'Université de Nantes, avec des masters spécialisés en énergie marine renouvelable. Donc, on a vraiment un coup à jouer. Et en ce moment, je peux dire, on ne peut pas faire la fine bouche. Tout est bon à prendre pour augmenter la production énergétique. On ne dit pas qu'on va remplacer le nucléaire ou quoi que ce soit. Ça va venir augmenter encore une fois et améliorer notre mix énergétique global.
Alors on a un anti-éolienne sur le plateau, c'est Fred Hermel. Est-ce que tout est bon à prendre pour améliorer notre production énergétique, Fred?
Non, parce que je vois, c'est très intéressant d'un point de vue technologique. Moi j'adore la chronique d'Anthony, on apprend plein de choses, etc. Mais ça va coûter combien? L'investissement paraît tellement dingue par rapport à ce qu'on pourrait faire.
C'est des entreprises françaises, ça fait marcher nos industries.
Il faut penser au retour sur investissement.
Mais dans combien de temps? Et on sait très bien que.
Ça s'appelle recherche et développement. Donc il y a un coût au départ. pas.
Mais moi, je vais vous dire, tout simplement, parce qu'il y a un sujet, une technologie qu'on maîtrise très bien et qu'on a laissé tomber, qui s'appelle le nucléaire. Je sais, je
coûte très cher aussi.
Tout cet argent, tout cet argent qu'on investit là-dedans, sans trop savoir comment ça va marcher, on ferait mieux de le mettre dans le nucléaire.
L'un n'empêche pas l'autre.
Parce que les déchets, là, qu'est-ce qu'on va faire des éoliennes, les déchets? Ça en fait de la ferraille, hein.
L'un n'empêche pas
la ferraille de la ferraille que l'uranium, quand même. Le fer est plus facile à recycler.
Ah non, l'uranium, c'est très bien. Non, non.
Sauf que dans les générateurs de phase 4, on utilisera les déchets pour produire de l'énergie. Mais là aussi, c'est dans un certain temps. Et là aussi, ça demande de l'investissement. Et là aussi, de la technologie. L'un ne va pas sans l'autre.
Surtout, il faut pas opposer
les exactement. Ça n'empêche pas que le nucléaire sera une part très importante dans le mix énergétique.
Ça s'appelle le mix.
Ça vient renforcer le tout.
Anthony Morel, est-ce que vous avez une trottinette électrique?
Ah non, alors là, jamais de la vie.
Il est bien ce garçon.
Vous rigolez ou quoi?
Je sais pas, vous avez une tête à avoir une trottinette électrique.
Merci, je le prends pas bien.
J'étais sûr que vous allez me dire oui.
Ah, mais non, mais c'est
horrible. Ça m'aura arrangé d'ailleurs.
Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.